Moi, je suis en poste effectivement au sud de Paris dans un laboratoire qui développe les modèles climatiques. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la modélisation du cycle du carbone et vous mettre en évidence l'interaction qui existe entre les cycles biogéochimiques et le climat. Alors, première chose, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu des variations donc, du CO2 atmosphérique dans le passé. Donc ça, c'est une chose qui est sûre. Donc là, on vous présente des courbes donc, d'évolution dans le temps de la concentration en CO2 atmosphérique avec donc, différentes échelles de temps. Ici, vous avez la célèbre courbe de Keeling donc, qui a été obtenue à Hawaï sur donc, le siècle dernier où on voit donc, cette augmentation du CO2. Et ensuite, sur des échelles de temps un peu plus longues, ici jusqu'à 800 ans après Jésus-Christ, et ici sur des échelles de temps un peu plus longues, vous voyez les cycles, donc, les cycles de concentration donc, du CO2, avec des échelles de temps qui peuvent atteindre jusqu'à 500 millions d'années. Donc en fonction de différents proxys, donc ici vous avez une liste non exhaustive des proxys qu'on peut avoir, donc des marqueurs, donc on peut faire soit des mesures directes pour ce qui se passe en ce moment, et sur le passé, analyser les bulles d'air dans les carottes de glace, ou les isotopes du bore ou du carbone, et les indices tomatos, donc les indices dans les feuilles. Donc, une chose qui est claire lorsque l'on regarde ces figures, c'est qu'on a donc une augmentation de ce carbone dans l'atmosphère. Alors, on a donc certaines certitudes sur ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe actuellement. On a aussi beaucoup de questions. Alors, du côté des certitudes, première chose, c'est que on sait que le CO2 atmosphérique résulte des échanges avec plusieurs réservoirs, donc les réservoirs, donc les enveloppes fluides externes et internes. Sur le long terme, on va avoir plusieurs choses qui vont intervenir. Donc, au-delà de 1 million d'années, le carbone, lui, va être régi par des phénomènes de dégazage, d'altération des roches. Moyen terme, plus de 1 million d'années à 1000 ans. On aura l'océan qui va jouer, donc la circulation océanique, les sédiments, la répartition des sédiments, et à court terme, on va avoir donc des enveloppes fluides, telles que l'océan, la biosphère terrestre, les sols, qui vont puiser plus ou moins ce carbone. Alors ça, c'est le cycle du carbone sur le long terme. Donc on voit que ce qui va régir le transfert de carbone entre les différentes enveloppes, on a donc les volcans, le volcanisme qui va pas mal agir, les phénomènes de métamorphisme donc dans les zones de subduction qui va entraîner des transferts de carbone, et ensuite tous les transferts de carbone à travers la dorsale médio-océanique. Donc tous ces phénomènes plus qui sont attraits donc à la géodynamique interne. Et si on regarde sur des chaînes de temps plus courtes, on va regarder essentiellement ce qui se passe donc dans les enveloppes externes. Donc ici, l'atmosphère, qui donc, est le réceptacle des émissions de carbone, la biosphère terrestre et l'océan. En termes de bilan de carbone, si on regarde entre 1960 et 2005, là, vous avez une courbe d'entre 1850 et 2005 des flux de CO2. Donc, en valeur, ici, en bas, vous avez tout ce qui va puiser le carbone, donc le CO2, et en haut, ce qui va être fournir du CO2. Donc ça, c'est une courbe qui sort d'un article récent de 2007. On voit donc clairement une augmentation des sources et donc du puits de ce carbone dans l'atmosphère. Donc les principales sources, on voit qu'on a donc les émissions d'énergie fossile qui sont le principal en fait la principale source de CO2 dans l'atmosphère, et on a aussi donc la déforestation, donc l'induce, donc toute la déforestation qui va donc fournir du carbone dans l'atmosphère. Et donc ce carbone qui a été émis par l'énergie fossile, la déforestation, va être puisé, va être donc va partir dans l'atmosphère à 45% et le reste va être puisé par les autres enveloppes, donc l'océan qui va puiser le carbone en surface et la biosphère terrestre. Donc une autre certitude, c'est que le CO2, comme d'autres, un gaz à effet de serre et qu'il influence le climat. Alors, si on prend un extrait du dernier rapport du GIEC, donc, qui est sorti en 2007, on a ici, on voit donc les courbes de CO2, méthane et protoxyde d'azote en fonction du temps. Et ce que ces courbes mettent en évidence, c'est qu'on a une augmentation très rapide sur notre dernier siècle, qui est évidente et indiscutable, de ces gaz à effet de serre. Donc, une augmentation de ces concentrations de façon très forte et indiscutable. Si on regarde dans le passé, donc sur des échelles de temps plus longues, là vous avez donc une courbe qui sort d'une carotte de glace de Vostok, donc jusqu'à 450 000 ans before present. On a une courbe de la température et du CO2, et ce qui apparaît de façon très claire lorsqu'on regarde ça, c'est que la température globale du globe a évolué de façon en phase avec la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Sur cette image, ce qu'on peut voir, c'est que sur les 60 derniers millions d'années, on a une température qui a évolué de façon très en phase avec la concentration en CO2 atmosphérique. De la même façon, on a d'autres proxys, donc là c'est Aipica, on a la concentration en CO2 donc ici, qui donc va évoluer en fonction des différents cycles. Ici vous avez le temps aussi, donc avec d'autres gaz à effet de serre, donc là vous avez le protoxyde d'azote ou le méthane. Donc du côté des certitudes, ce qu'on sait, c'est que le CO2 est un gaz à effet de serre et influence le climat. Il influence pour les transitions glaciaires et interglaciaires. Ici, vous avez un extrait du rapport IPCC 2007, dans lequel on évalue donc, la part en fait, des différents forçages sur le changement de ces transitions glaciaires et interglaciaires. Et ici, vous avez donc le CO2, qui fait partie donc, des grandes causes de ces transitions glaciaires et interglaciaires. On y reviendra à la fin de l'exposé. Alors aussi pour la période industrielle, le CO2 va influencer la période industrielle. Donc ça c'est encore une image du rapport de l'IPCC 2007, où l'on voit en fait la température globale moyenne de 1850 à 2000. On a donc ici en observation donc, cette évolution de la température globale moyenne avec le niveau de la mer globale moyen. Et ici, la couverture neigeuse. Donc, ce qui apparaît de façon claire, c'est qu'on a une tendance dans ces trois paramètres climatiques, avec donc une augmentation de cette température globale moyenne, un niveau de la mer globale qui a tendance à augmenter, donc ici vous avez le niveau de la mer, donc, et la couverture neigeuse dans l'hémisphère nord qui a tendance donc à diminuer, et de façon assez drastique, on peut ici le voir depuis les 20 dernières années. Donc, si on regarde les forçages radiatifs qui sont liés à ces modifications, donc ici vous avez, pareil, toujours dans le rapport de l'IPCC, une évaluation de tous les forçages qui peuvent induire ce changement climatique dans la période industrielle. Donc ici vous avez la part naturelle et ici vous avez la part anthropogénique. Donc si l'on regarde, sans regarder en détail tout ce que l'on voit, si on regarde en termes d'amplitude, on voit que le CO2 ici fait partie donc, des gaz, des forçages radiatifs le plus important dans le changement climatique. Alors ici, vous avez une vision des données, donc de l'évolution de la température moyenne sur différents continents et de façon globale ici, globale sur la biosphère terrestre et globale sur l'océan, toujours sur la période industrielle. Donc en noir, vous avez les données. En rose, vous avez les modèles du rapport IPCC qui ont pris en compte les forçages anthropiques qu'on vient de voir. Et en bleu, vous avez les modèles qui prennent en compte que les forçages naturels, donc pas le forçage par le CO2. Donc ce qui apparaît clairement lorsqu'on regarde toutes ces courbes, c'est que le modèle qui suit les données et qui vraiment simule bien l'évolution donc, de la température à l'échelle terrestre, c'est donc le modèle qui va prendre en compte ces forçages anthropiques, donc l'augmentation des gaz à effet de serre. Alors, c'est la conclusion donc, du dernier rapport du GIEC, là, en anglais, qui dit clairement que le changement climatique actuel que nous vivons sur la période industrielle est dû donc à ces gaz à effet de serre. Et il dit donc que sur la dernière en fait, partie du XXe siècle, il est dû very likely à cette augmentation. Donc likely à 66% et très fortement à 90% à cette augmentation de gaz à effet de serre. Alors là, si on regarde juste les données avant de regarder le modèle, on a donc ici une compilation donc, de la PCO2 atmosphérique, donc la concentration, on va dire, du CO2 dans l'atmosphère, avec la température de surface entre 1750 et 2000, un peu plus de 2000. Donc ce que l'on voit, c'est qu'on a une augmentation de entre 280 ppm, donc le CO2 en période avant la période industrielle, et qu'on a atteint des valeurs de 370 ppm. Et si on regarde l'évolution de cette température donc, à la fin du 19e siècle hein, jusqu'à la fin du 20e, on voit qu'on a une augmentation de la température moyenne de 0,8 degrés. Maintenant, si on prend en compte ce que nous révèlent les modèles, voilà, en prenant en compte différents types de modèles, on voit qu'en 2100, on a une augmentation de la concentration en gaz à effet de serre qui passe à 550 ppm, parties par million, jusqu'à des valeurs, des modèles un peu extrêmes, à 1100 ppm. Donc des concentrations vraiment très supérieures à ce qu'on a vécu dans les 20 derniers millions d'années, et donc ce qui correspondrait à une augmentation de la température moyenne globale de 1,5 degré pour les modèles les plus optimistes, à 6 degrés pour, de façon globale, pour les modèles un peu les plus pessimistes. Donc, là, je vous représente encore les données et les modèles entre 1990 et 2010. Donc, ici, vous avez les données en noir, donc les émissions en fait de CO2 dans l'atmosphère. Et ici, vous avez donc les modèles en couleur, ici, qui suivent donc bien les données et ensuite qui traduisent ce qui pourrait se passer dans le futur. Et donc ici vous avez différentes lettres qui correspondent aux scénarios qui ont été mis en place, par la communauté scientifique. Et en fonction de ces différents scénarios, c'est-à-dire soit on stabilise le CO2 à 450 ppm ou à 650 ou on le fait doubler, etc. Si on regarde l'évolution de ces émissions de CO2 dans l'atmosphère, on voit que les modèles sous-estiment déjà par rapport à ce qu'on a en 2006 les émissions réelles. Donc en résumé de ce qu'on vient de constater, le CO2 augmente, donc c'est un gaz à effet de serre, dont les concentrations actuelles sont beaucoup plus fortes que ce qu'on a vu dans les 20 derniers millions d'années. Les causes de cette augmentation résident dans la combustion de l'énergie fossile, pétrole, charbon, etc., et la déforestation, qui donc déstabilise les écosystèmes. Et cette augmentation du CO2, elle contribue donc au changement climatique et à l'amplification d'effets de serre. Alors la Terre, c'est clair, elle se réchauffe, et les modèles sont capables de le prédire. On a vu qu'on arrivait à prédire une augmentation. Mais alors, comment se présentent ces modèles ? Donc, on va regarder maintenant plus en détail les modèles. On va voir différents types, différentes échelles de temps qui vont montrer donc différents types de modèles de climat. Alors le premier concerne le changement climatique futur, donc on va se situer dans une échelle de temps plus proche de la nôtre sur la période industrielle, donc entre 1860 et 2100. Et ce changement climatique futur, en fait, à travers le modèle, donc un modèle de circulation générale, un GCM, donc, qui prend en compte les enveloppes fluides externes, on associe un modèle du cycle du carbone dans l'océan et la biosphère terrestre. On couple en fait ces modèles et on va regarder quelle est la rétroaction entre le climat et le carbone. Donc ça, c'est le modèle couplé de l'IPSL, c'est l'Institut Pierre-Simon Laplace dans lequel je fais partie, qui donc a été développé dans l'Institut, qui ressemble à un certain nombre de laboratoires. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est donc sur des échelles de temps plus longues, sur le cycle glaciaire-interglaciaire, et regarder quelle est la part du carbone dans ces transitions glaciaires-interglaciaires. Donc sur l'échelle de temps de 3 millions d'années au présent. Et on va regarder donc un modèle qui est beaucoup plus simple. Donc c'est un modèle qui a été développé par Ziti Payard, qui vous présentera tout à l'heure une conférence, avec donc 4 équations et juste une feuille de calcul. Alors, d'abord, le couplage entre climat et carbone pour la période industrielle. Alors, on va regarder le principe de ce couplage entre climat et carbone. Quel modèle on va développer? À quoi ressemblent ces modèles? Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Et quels mécanismes on peut en retirer? Alors, sur le principe, une simulation classique, simulation climatique classique, on part des émissions. Ici, on parle de ces missions avec différents scénarios qui vont nous donner donc des concentrations, des concentrations en CO2 dans l'atmosphère, et ensuite pour nous donner une série temporelle prédictive de la température globale. Donc ici, vous avez une compilation des différents scénarios. Donc ça, c'est un schéma classique linéaire entre l'émission et ce que nous donne le climat. Or, les puits de carbone. Donc on a vu que les puits de carbone, pour actuellement, c'était l'océan et la biosphère terrestre. Ils répondent aux modifications du climat. Ils ne vont pas rester sans réaction. Donc là, si on regarde cette courbe, entre 1960 et 2000, les émissions d'énergie fossile, on voit que les énergies fossiles augmentent. On voit associer donc une augmentation ici, en annuel ou en mensuel, du CO2 dans l'atmosphère. Et si maintenant on regarde l'effet que cela va avoir sur nos réservoirs de carbone, donc on regarde ici ce qu'on appelle une fraction, l'urban fraction. C'est une fraction qui va donc donner la part du CO2 qui a été émis par l'homme, mais qui va rester dans l'atmosphère, donc qui ne va pas être puisé par la biosphère terrestre ou l'océan. Donc si on est dans un système où nos réservoirs continuent à puiser le CO2, on ne devrait pas avoir de tendance, on ne devrait pas trouver de tendance dans le temps. Or, si on regarde entre 1960 et actuellement, on voit, donc ça c'est l'évolution de cette fraction, on voit une augmentation de cette fraction de 10%, ce qui traduit qu'on continue à émettre ce CO2 qu'on continue à émettre dans l'atmosphère. Les puits de carbone n'arrivent plus à les puiser comme avant. Donc on a une diminution de ces puits de carbone dans la biosphère terrestre et dans l'océan. Donc le schéma classique que j'ai montré tout à l'heure, lorsqu'on parle des émissions, qu'on donne des concentrations, qu'on évolue donc le climat, est forcément une boucle, est forcément un schéma trop linéaire. Il faut y associer une boucle où on prend en compte les puits de carbone qui vont rétroagir sur les concentrations et donc avoir une idée plus claire du climat. D'où la notion de couplage entre le climat et le carbone. Alors, les processus qu'on prend en compte dans les modèles, donc le modèle couplé va prendre en compte la circulation générale, donc de l'océan, de l'atmosphère, et il va prendre aussi en compte le cycle du carbone dans la biosphère terrestre. Donc là, vous avez une idée schématique du cycle du carbone dans la biosphère terrestre qui est prise en compte dans le modèle, donc avec les grands phénomènes qui vont régir les transferts de carbone dans la biosphère, à savoir donc la production primaire et la respiration au niveau des végétaux, leur destruction au niveau des détritus, l'évolution du carbone dans les sols, et ensuite donc le transfert vers l'atmosphère. Donc une vision simple des grands mécanismes qui se produisent dans la biosphère. Et on fait la même chose dans l'océan, on prend un modèle, donc ici vous avez le modèle qui est pris en compte dans le modèle couplé, où on regarde en fait les transferts de carbone au sein de l'océan. Donc typiquement ce qu'on fait dans l'océan, on va avoir un flux air mer entre l'atmosphère et l'océan de carbone. Donc ensuite ce carbone va se retrouver essentiellement sous forme inorganique dissoute dans les couches de surface, et on divise basiquement l'océan en deux couches. La couche de surface ici, on prend en compte l'activité biologique, donc du phytoplancton, du zooplancton, et en dessous, on a donc on ne prend pas en compte la biologie, on prend en compte des phénomènes essentiellement de remunération ou d'export. Donc plus concrètement, si je regarde dans l'océan, on prend en compte au niveau du phytoplancton qui va respirer, il va faire de la photosynthèse, hein, donc capter ce carbone sous forme inorganique dissoute, qui va être transformé au chêne trophique supérieur, donc on prend en compte le zooplancton, on ne va pas plus loin dans le modèle. Et ce zooplancton et ce phytoplancton vont mourir sous forme de détritus qui vont être exportés soit sous forme particulière, donc ici des petites coquilles de carbonate, ou exportés sous forme de tissu organique en fait. Et ensuite, donc, cet export soit va être enfoui dans les sédiments, soit va être donc reminéralisé, la partie organique peut être reminéralisée, et tout ceci est transporté par la circulation générale. Donc on prend en compte dans le modèle couplé ces grands processus. Donc ce que l'on voit clairement, c'est qu'on va nier certaines choses, on fait des simplifications dans les cycles, mais on essaye de prendre en compte ce qui va vraiment régir les flux de carbone. Donc sur le modèle couplé, alors ce que l'on fait, c'est que le modèle couplé, donc lui, va être régi par ce qu'on appelle les équations primitives. Donc c'est les équations de la dynamique des fluides, ce qui va régir en fait la dynamique de l'océan ou de l'atmosphère. Et donc ces équations sont intégrées dans une maille, dans une grille, qui va regarder en fait les processus qu'ils produisent. Et plus concrètement ce qui se passe, ce modèle va être intégré sous forme Fortran. Donc ça c'est une petite routine Fortran. Si je regarde la page après, ici vous avez un exemple d'une routine. Alors, c'est sous forme Fortran, on regarde, c'est les équations qu'on rentre qui vont traduire le transport. Ici, c'est donc l'équation du transport par les vitesses dans les trois directions des traceurs passifs. Donc, ce qu'on appelle un traceur passif, c'est un traceur qui ne réagit pas. Donc c'est le carbone, ça va être les phosphates, les nutriments, qui vont donc se laisser porter, se laisser porter par la circulation. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on intègre dans le modèle. Donc ce modèle, une fois qu'on a construit toutes les routines, qui traduisent donc les cycles que je vous ai montrés, la biologie, les transports, dans l'atmosphère la même chose et dans la biosphère aussi, le modèle couplé a besoin d'être discrétisé. Donc ici, vous avez les mailles qui correspondent donc aux différents modèles. Alors ici, c'est le modèle couplé du PSL, où on voit en haut, vous avez la grille du modèle atmosphérique, LMDZ. L'orchidée, c'est le modèle de la biosphère terrestre. Donc ici, ces deux modèles, en fait, répondent à cette grille. Et en dessous, vous avez donc ORCA, c'est la grille de l'océan, et LIM, la grille de la glace. Et donc, vous avez des grilles différentes, parce que les processus sont différents, et donc tous ces modèles vont être couplés entre eux. Donc ils sont couplés, on fait tourner le modèle en fait en France. Alors à l'IDRIS, c'est le centre de calcul du CNRS à Orsay. Donc là vous avez un exemple d'ENEC qui tourne en fait, de l'ANEC qui va faire tourner le modèle. On fait tourner aussi au CCRT, donc c'est au CEA, c'est le centre du CEA, pas loin donc de Paris. Et aussi au Japon, on a des collaborations avec le Earth Simulator qui est beaucoup plus puissant que nos machines ici en France et qui nous permet donc de regarder des modèles avec des résolutions beaucoup plus fortes que celles que je viens de vous montrer, avec la grille que je viens de vous montrer. Alors, pour vous donner une idée d'une simulation entre 1860 et 2100, donc les simulations que je vais vous montrer, il faut 2500 heures de temps CPU. Donc le temps CPU, c'est le temps qui va se passer en machine, et donc ça correspond à plusieurs mois en machine en fait. Voilà. Avec. J'ai appuyé sur vidéo. Donc, donc la première limitation, c'est du modèle couplé. C'est le temps qui est passé en machine pour avoir une simulation qui tient la route. Et aussi l'espace disque. Pour une simulation, il faut 500 gigas de données. Donc 500 gigas de données, c'est un gros disque, hein, juste pour avoir toutes les sorties de modèles qu'on va vous montrer. Donc ça, c'est la première étape. On construit le modèle entre les différentes enveloppes, on les couple, on fait tourner au centre de calcul, et ensuite, l'étape suivante est nécessaire, c'est d'évaluer le modèle, donc de le valider par rapport aux données. Donc, pour évaluer le modèle, en termes de climat, on va regarder les températures, la température globale, qu'est-ce que le modèle va nous raconter, les précipitations et les différentes circulations, si on a des vents corrects, si on a donc un océan qui circule bien, une bonne convection haute latitude. Et en termes de cycle du carbone, on va regarder la PCO2 atmosphérique, voir si c'est un proxy qui est très utile, si le modèle représente bien cette PCO2, les flux de carbone entre les différents réservoirs et la production primaire, par exemple. C'est quelque chose d'assez classique. Donc, pour regarder en fait ces différentes choses que le modèle nous donne, on va regarder donc ce qu'on a en données. Donc, les données sont satellitales. On prend, donc, le satellite peut donner énormément de choses. On peut compiler aussi les mesures in situ. Donc, les mesures in situ dans l'océan, typiquement, on va faire des campagnes donc en mer. À bord d'un bateau, on fait des mesures sur des sections. On peut aussi lâcher des bouées, donc qui vont être dérivantes, ou des mouillages. Donc, c'est des bouées qui vont rester à un endroit et on fait des mesures pendant un certain nombre de temps. On récupère toutes ces données. On fait la même chose dans l'atmosphère, on fait des campagnes héliportées, dans la biosphère terrestre aussi. Et donc, ça nous permet de regarder un peu ce que donne notre modèle. Donc, si je regarde là, dans l'océan, enfin, dans la pression partielle, la différence de pression partielle en CO2, donc entre l'atmosphère et l'océan. Donc, ce terme va traduire, en fait, si j'ai plus de CO2 dans les régions, dans l'atmosphère ou dans l'océan. Donc là, vous avez un film entre, donc vous avez ici les mois, entre janvier et décembre, donc sur une année. Donc vous avez en haut les données donc de 2007 de Takahashi et en bas le modèle de l'IPSN, le modèle couplé, ce qu'il nous donne. Donc ce que l'on voit clairement, c'est que le modèle lui représente bien qu'au niveau de l'équateur, on a une zone qui est plutôt source de carbone, donc ici. Donc source de carbone, c'est-à-dire que l'océan va tendance à dégazer le carbone vers l'atmosphère, alors qu'au haute latitude, ici, et donc aussi dans l'austral, on a tendance à puiser le carbone. Donc le modèle représente bien ces transferts entre l'atmosphère et l'océan de CO2. Maintenant, si on regarde la PCO2 atmosphérique, donc là, vous aviez, ça c'est la coupe de Keeling, ici, donc les observations à Mauna Loa, à Hawaï. Vous avez l'évolution donc, de la PCO2 atmosphérique en fonction du temps, ici. Et si on regarde ce que produit le modèle couplé, on voit qu'on a un modèle couplé qui correspond bien, qui montre bien la tendance et la variabilité interannuelle et décennale donc de cette PCO2 atmosphérique. Alors, les résultats maintenant de ce modèle, voilà, je vous ai montré deux, trois choses, mais on fait, pour valider le modèle, on regarde tout le maximum de choses. Donc là, c'était vraiment pas exhaustif ce que je vous ai montré. Hein. Pour regarder maintenant donc, ce que nous raconte le modèle, ici, donc, je vous montre la concentration de CO2 et ici, donc, la température entre 2000 et 2100. Donc ce que montre le modèle, en fonction de différents scénarios, on voit qu'on a une augmentation de cette concentration en CO2. Donc ici, on est dans les valeurs actuelles autour de 350 ppm. Et on augmente donc vers des valeurs de 650 à 1000, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en ppm. Et tout ça se traduit, au point de vue température, par une augmentation de la température de 1,5 à 6 degrés. Alors maintenant, ce qu'on peut regarder au niveau du couplage climat-carbone, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait une nécessité de prendre en compte ce couplage pour d'avoir des modèles couplés. Ici, une autre étude sur un autre modèle couplé, mais pas celui d'IPSL. Donc c'est Cox et al. Qui, dans un papier de Nature en 2000, ont utilisé un modèle. Ils ont fait tourner trois simulations. Alors, une simulation où on fait un vrai couplage donc, entre les différents réservoirs, biosphère, océan et atmosphère. Une autre simulation où on fait du offline, donc c'est-à-dire que l'océan va être... en fait, les boîtes ne se parlent pas entre elles. Et une autre simulation où, en fait, on inclut du CO2, l'évolution du CO2, mais la végétation, elle, ne parle pas aux autres. Donc, en gros, ce qui se passe, si on regarde l'évolution, vous avez ici l'évolution de la concentration en CO2 en fonction du temps entre 1850 et 2100. Vous avez les trois courbes. Donc, la courbe noire prend en compte l'évolution du CO2, mais a une végétation qui ne parle pas aux autres réservoirs. La courbe bleue, elle, c'est une simulation offline, donc les réservoirs ne se voient pas. Et la simulation rouge, c'est une simulation couplée. Donc ce que l'on voit entre ces trois simulations, en fonction du temps, si on se place en 2100, on voit qu'on a une différence de 220 ppm, donc en termes de concentration en CO2. C'est-à-dire que si on ne couple pas les réservoirs entre eux, on a une perte d'information qui est non négligeable. Donc cette perte d'information, elle est due au fait que la courbe rouge, la simulation rouge, prend en compte l'évolution de la biosphère. Et si on regarde, sans regarder trop dans les détails, une série temporelle de cette évolution de la biosphère, vous avez ici différents types de plantes donc dans l'Amazone. Et on voit qu'on a donc, pour certains types de plantes, une décroissance très forte attendue autour, déjà bien amorcée en 2050, donc une déforestation, de destruction de l'Amazone assez forte, qui donc traduit en fait un puits qui a tendance à fortement diminuer dans l'avenir. Alors une autre étude sur les couplages, le couplage entre le climat carbone, donc un chercheur de mon laboratoire, Pierre Kuhnestein, qui a étudié différents types de modèles couplés, donc celui de l'IPSL, mais pas que celui-là, 11 modèles couplés, et il a regardé en fait ce que racontaient ces modèles couplés au niveau de la concentration en CO2 en fonction du temps. Donc là, entre 1850 et 2100, et si on regarde l'évolution de ces différents modèles couplés dans le monde, on voit que tous les modèles montrent une rétroaction positive. Donc on a une rétroaction ici qui est très forte, c'est-à-dire qu'on a un puits de carbone qui a tendance à diminuer dans les réservoirs, et que donc on a une amplification de cet effet de serre. Donc même chose sur une autre étude. Là, on a pris en compte les différences des changements dans ici la biosphère et ici l'océan. Si on prend ces changements en compte dans les deux réservoirs, donc à différents types de scénarios, on voit que ici, lorsqu'on augmente la concentration en CO2 et qu'on regarde le puits de carbone, comment il se produit, on voit que le puits de carbone a tendance à diminuer lorsqu'on augmente les concentrations en CO2 dans l'atmosphère. De la même façon pour l'océan. Donc ce que l'on voit clairement dans cette étude, c'est qu'on a un puits de carbone qui s'amenuise avec la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Alors, deuxième étude, donc là on quitte la sphère industrielle et on rejoint les échelles de temps plus longues, 3 millions d'années présents. Donc pour expliquer comment en fait le couplage entre le climat et le carbone peut expliquer les transitions glaciaires interglaciaires. Donc là, je retourne à un modèle qui est beaucoup plus simple, qui s'appuie sur 4 équations et une feuille de calcul Excel, donc qui a été développé par Didier Bayard et par Hénin. Donc ce modèle a pour principe, donc on va regarder le principe du modèle. Donc si on regarde une concentration, c'est la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure à Vostok, si on regarde l'évolution sur les 450 000 dernières années, de la concentration en CO2, on voit qu'on a des grands cycles ici, et qu'au premier ordre, la température donc, est bien en phase avec le CO2, mais qu'au premier ordre, on peut expliquer cette évolution de la température par les cycles de Milankovitch. Donc c'est les paramètres orbitaux qui vont changer et qui vont donc expliquer cette tendance. Mais si on regarde de plus près les choses sont un peu plus compliquées. Et donc si on regarde ce qui peut expliquer les variations du CO2 dans l'atmosphère, donc c'est ce qu'on appelle la quête du Graal des paléoclimatologues, savoir qu'est-ce qui va vraiment déterminer ces variations dans le passé du carbone. Donc là, vous avez une évaluation des différentes composantes qui peuvent influencer ce carbone, donc la concentration en CO2. Donc vous voyez qu'on a une liste non exhaustive et très, très importante des différents paramètres qui peuvent influencer ce CO2. Alors, le principe sur lequel on va regarder dans cette étude, donc s'appuie sur la formation des eaux profondes dans l'Antarctique. Donc en haute latitude, dans l'océan, en Atlantique Nord et en Antarctique, on a une formation d'eau profonde qui est liée au fait qu'on a de la glace qui va avoir tendance à rejeter. On est dans une zone en fait où la glace va fondre, on va avoir donc des eaux très froides aux alentours et des eaux donc plutôt salées qui vont avoir tendance à plonger et donc créer de la convection. Et donc là, on a une formation d'eau profonde. Donc si on regarde un schéma en Antarctique, entre une période chaude, une période glaciaire et une période et maximum glaciaire, donc il y a eu une hypothèse qui a été faite sur le fait qu'en période chaude, on a donc la calotte ici antarctique sur le continent, on a la glace de mer aussi, on a des des précipitations assez fortes en période chaude. Et donc ce qui se produit dans ces périodes, c'est que l'eau ici va être froide, mais elle va être peu salée. Elle va être peu salée parce que comme il pleut beaucoup, on dilue le sel en surface. Donc cette eau qui est froide, parce qu'elle est haute altitude, mais peu salée, elle est peu dense, et donc on va avoir une formation d'eau qui va être quand même relativement peu dense, et donc une stratification, c'est-à-dire une différence de densité entre les différentes couches, entre la surface et la profondeur, très faible. Si bien que ce qui se produit, c'est que cette eau qui se trouve ici, qui est en échange entre l'atmosphère et l'océan, va puiser du carbone, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, elle puise le carbone, elle le met sous forme inorganique dissoute, la forme inorganique dissoute se trouve puisée dans ces eaux, qui va plonger, et donc on va avoir tendance à stocker du carbone vers les profondeurs. Dans cette période chaude, ce que l'on voit, c'est qu'on a une stratification faible, et du coup, le carbone qui se trouve en profondeur va avoir tendance à remonter. Donc on peut remonter vers la surface. Or, si on regarde la période glaciaire, ici, donc les précipitations sont beaucoup plus faibles, on a une eau qui est plus salée, qui est toujours froide, mais bien salée, donc qui dit froid et salé, elle va plonger, elle va être très dense et bien plongée, et du coup créer une forte stratification entre la surface et la profondeur. Du coup, tout le carbone qu'elle aura piégé au moment de sa formation va avoir tendance à rester en profondeur. Et si on regarde ici le maximum glaciaire, donc ça c'est au début de la période glaciaire, et ici là, juste au niveau du maximum, on voit qu'on a une calotte qui a bien progressé sur le plateau continental, et donc une calotte qui a tendance donc à prendre le pas sur la mer, et donc qui empêche la formation de ces eaux denses, et donc qui empêche la stratification en période glaciaire, une bonne stratification, et donc qui peut entraîner une remontée de carbone. Donc c'est ce que se propose d'étudier cette étude à travers quatre équations, c'est étudier ce mécanisme. Donc le modèle, lui, se présente de cette manière. On a trois variables, quatre équations, donc qui va prendre en compte le volume de glace globale, la taille de la calotte antarctique, on a vu qui variait, et la concentration en CO2 atmosphérique. Donc ce modèle, il va être forcé par des insolations à 60 nord et à 60 sud. Et l'idée, c'est donc, là vous avez les équations qui représentent exactement le modèle. Et donc, vous avez donc ces équations, on les fait tourner dans une feuille de calcul Excel, et on regarde ce que nous donne donc le modèle. Alors, il y a un terme qui est important, qui va ici, qui s'appelle le terme F, ici. Ce terme F qui rentre dans les équations, c'est le facteur d'efficacité de formation de ces eaux profondes, AABW. Donc c'est l'efficacité de produire des eaux salées et denses. Donc ça, c'est un terme qu'on va regarder dans ce que produit le modèle. Donc on laisse le modèle tourner. Donc là, c'est la feuille de calcul Excel. Et on regarde ce qu'il nous donne. Alors, première chose à faire, c'est de valider le modèle, regarder s'il reproduit bien l'évolution du CO2, par exemple. Alors, on va regarder d'abord les courbes qui correspondent. Donc ici, vous avez, en bleu et en rouge ici, vous avez les courbes de l'évolution de la glace dans le modèle, du volume de glace. Et ici, c'est les données. Donc ici, vous avez les données qu'on arrive à compiler. Et ce que l'on voit bien, c'est que le modèle reproduit bien la tendance de ces données, donc à grande échelle de temps. Donc ici, je vous resitue, on se trouve entre 0 et 500 000 ans avant BP. Voilà, donc on voit qu'on a un modèle qui reproduit bien cette évolution de glace. Et si on regarde la différence entre la P de CO2, donc la concentration de CO2 en atmosphère, et la concentration donc, dans les données, on voit qu'on a un modèle qui représente, avec des équations simples, une bonne évolution de cette concentration en CO2. Voilà. Donc maintenant, si on regarde les autres courbes, on va regarder la courbe bleue, ici. Donc la courbe bleue représente le terme, la taille de la calotte antarctique. Et ici, vous avez la courbe verte, qui est le facteur F. Donc le facteur F, c'est l'efficacité de produire ces eaux denses et salées. Donc j'arrive à bien former des eaux denses et salées, ici, donc lorsque le facteur est fort, en période, donc ici, je vous le remontre, ici, en période chaude, j'ai tendance à former donc peu de ces eaux, et F sera fort en période glaciaire. Donc si je regarde l'évolution de F, ici donc on est dans une période glaciaire, ici une période interglaciaire, et que je regarde l'évolution donc de ce volume de la taille de la calotte antarctique, on voit ici à chaque maximum, donc là je vous représente les maximums, à chaque maximum suit une période interglaciaire. Donc dès que j'ai un maximum dans la taille de la calotte antarctique, juste après, je rentre dans une ère interglaciaire. Donc ce modèle vérifie bien cette hypothèse, montre qu'il y a un couplage important entre donc, le carbone qu'on va séquestrer dans les eaux et qui va, plus ou moins selon la stratification, pouvoir revenir en surface, et donc qui dit revenir en surface, venir réchauffer le globe. Donc ça, c'était sur les 500 000 dernières années. Si on regarde plus en détail le modèle à des échelles de temps beaucoup plus longues, là on voit donc, ici, on voit que donc, dans le modèle, là vous avez en vert le facteur F, donc je ne vais pas m'attarder sur l'analyse de ces courbes, donc, mais sur les 5 derniers millions d'années, lorsqu'on introduit une petite dérive dans ce facteur, juste dans le facteur F, on arrive à très bien reproduire en fait les cycles de CO2. Donc les cycles interglaciaires et glaciaires. Donc ce que l'on voit en fait, c'est que ce facteur F est important. Cet article montre que la formation donc, de ces eaux profondes et donc la séquestration de ce carbone est un élément important à prendre en compte dans les cycles climatiques passés et que donc c'est une hypothèse à valider. Et à voir par la suite que le couplage du climat carbone était aussi important dans le passé. Donc en conclusion de ce que je vous ai montré aujourd'hui, sur toutes les échelles de temps, on a une importance assez forte de ce couplage entre le climat carbone, que ça nécessite forcément d'avoir des modèles couplés, qui prennent en compte donc, que les réservoirs parlent entre eux et traduisent donc, ce qui se passe à travers chacun d'eux, et que donc la modélisation peut prendre différentes formes. Donc elle peut prendre la forme de ce qu'on vient juste de voir, quelques équations, donc une feuille Excel, et des centaines de milliers de codes, de lignes de code, donc dans un modèle couplé, où là les choses sont un peu plus complexes pour comprendre des mécanismes un peu plus complexes. Dans tous les cas, on fait des hypothèses, on simplifie, comme dans le cycle ce que je vous ai montré, on fait des simplifications, on nie certaines choses, on estime que d'autres processus sont plus importants, on construit le modèle, donc avec ces simplifications, et ensuite on essaye de le valider. Ça, c'est le point important, et ensuite donc d'interpréter ce que le modèle nous raconte pour le futur. Voilà, je vous remercie.